Notre spirituel aujourd'hui sera une question d'un grand pianiste et compositeur russe profondément chrétien, Nikolaï Metner, qui est mort en 1951. Rachmaninov le considérait comme un très très grand compositeur et même le plus grand compositeur de son temps. Toutefois, on a pu lire dans la presse du 20 juillet dernier, lors d'un concert Metner qui a eu lieu au Festival de la Naudière avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, l'OSM, avec Charles Dutoit. Et on a joué, on a interprété le deuxième concerto de Nikolaï Metner. C'était le merveilleux Marc-André Hamelin qui l'interprétait. Et Claude Gingras a dit que c'était l'un des événements les plus attendus de notre été musical. Principalement chez les fervents d'un certain répertoire de piano néo-romantique. Oui, c'est un néo-romantique que Nikolaï Metner. Et il ajoute que malgré le froid subi et puis la menace d'une pluie qui finalement tomba légèrement, il est venu quand même 1800 personnes au Festival de la Naudière. Et l'ovation que l'auditoire a réservée aux participants et surtout la tension avec laquelle il a écouté l'œuvre, totalisant plus d'une demi-heure, ne laisse aucun doute. La musique de Metner, à peu près inconnue ici, dit Gingras, a laissé une très bonne impression sur ce public, qui immédiatement et avec raison l'a identifié à celle de Rachmaninov, qui lui est familière et combien chère. Et il termine son article en disant « Il est d'ailleurs intéressant de connaître les liens qui unirent les deux compositeurs et pianistes. Metner dédia son deuxième concerto à Rachmaninov et celui-ci dédia à Metner son quatrième concerto composé au même moment, soit en 1926-27. Il y a 70 ans, quoi. » On peut aussi rappeler que Metner, comme Rachmaninov d'ailleurs, se produisit chez nous comme pianiste. Et Metner est venu ici. Metner, lui-même ici, plusieurs disciples, dont le pianiste Bernard Pinsonneau, qui a écrit une biographie de lui, et je m'en suis inspiré de cette biographie pour vous parler aujourd'hui de Metner. La vie de Nikolaï Metner, M-E-D-T-N-E-R, semble avoir été poursuivie par le sort. C'est pas une vie facile. C'est une vie doublement tragique. Il a été obligé de quitter son pays, la Russie. Et puis, il a vécu dans trois autres pays, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Il est mort loin de tous les siens, puis dans une grande solitude. Nikolaï Metner, j'en profite pour dédier cette émission à notre Nikolaï Diouskine, qui est russe et qui s'appelle Nikolaï aussi, et qui est le metteur en onde de cette émission-ci d'ailleurs. Alors, Nikolaï Metner est né à Moscou un 24 décembre, la veille de Noël, dirait-on, 1879. Mais c'était pour nous le 6 janvier 1880 dans notre calendrier, parce qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous, ils ont le calendrier julien, eux, et nous, c'est le calendrier grégorien. Il faudrait que je vous explique ça si vous ne savez pas ça déjà, mais probablement que vous savez ça. Nikolaï est le plus jeune d'une famille de 5 enfants, 4 garçons et une fille. L'aîné, qui s'appelle Émile, a été un écrivain et un philosophe connu en Russie et même en Allemagne. Il a écrit plusieurs volumes sur l'art, la philosophie, puis pendant plusieurs années, ce qui est intéressant, il a été l'ami puis l'associé du célèbre psychiatre Carl Jung. Je vous prépare une émission d'ailleurs sur Carl Jung. Et puis, il y a eu son frère Charles, il y a eu son autre frère Alexandre, qui a été violoniste et chef d'orchestre réputé à Moscou, puis sa sœur Sophie, qui habitait Moscou, qui s'est mariée. Metner, donc, Nikolaï Metner, est un enfant prodige. Dès l'âge de 5 ans, et sa mère, qui était une très bonne musicienne, c'est elle qui lui a donné ses premières leçons de piano. Il était fasciné, tellement fasciné, qu'à l'heure des repas, sa mère est obligée de l'arracher de force du piano, puis partout sur des bouts de papier, même sur les portes et les murs de la maison, il écrit des portées et des notes, puis commence à composer. Et plus tard, vers l'âge de 8 ans, il peut prendre le violon de son frère Alexandre, son jeune frère, et puis il joue ce qu'il désire. Puis au piano, bien, il improvise. Il improvise d'une façon absolument étonnante. C'est un enfant étonnant, extraordinaire. Et par son initiative, avec son jeune frère Alexandre, ils organisent, puis forment des espèces de petits orchestres d'enfants. Alors là, les cousins, les amis participent. Et on s'amuse fort, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais toutefois, ses parents ne songent pas qu'il pourrait devenir un musicien si extraordinaire. Alors on l'envoie pour ses études au gymnase, c'est-à-dire dans un lycée, dans un collège, si vous voulez, ordinaire. Et pour le piano, bien, sa mère, après environ 3 années d'études avec elle, elle le place entre les mains d'un oncle qui est organiste et professeur au conservatoire de Moscou. Et les goûts de Nikolaï Medner, qui a moins de 9 ans, ils sont déjà orientés vers les grands maîtres. Il y a moins de 9 ans, mais il aime Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven. Mais un soir, en revenant de son collège, il annonce soudainement à ses parents, après avoir lancé dans un coin son sac de livres, que tout est fini entre lui, puis ce gymnase, où l'atmosphère, puis l'ambiance, l'étouffe, puis le tourment depuis longtemps. Il sent bouillonner dans sa belle âme le torrent, toujours grandissant de la musique. Puis il demande qu'on le place au conservatoire. Et là, et l'endroit idéal est rêvé, hein? Parce qu'en plus d'étudier les mêmes matières qu'au gymnase, les mathématiques, les langues, l'histoire, etc., il y a un grand nombre d'heures qui sont consacrées exclusivement à la musique. Après quelques discussions plutôt vives avec ses parents, mais il a l'appui de son frère Émile, bien le jeune Nicolas obtient ce qu'il demande avec tant d'insistance. Et pour l'entrée au conservatoire, c'est pas facile, les élèves doivent passer quelques examens, en particulier celui de solfège. Mais à première vue, il peut solfier n'importe quelle voix avec une extrême aisance. Et pour le piano, bien, il joue quelques sonates de Scarlatti, de Beethoven, de Mozart, avec grande maîtrise, dans un rythme parfait. Alors on le met immédiatement en classe de 3e. À 16 ans, il entre dans la classe supérieure, puis le fameux professeur Safonov choisit lui-même Medner pour sa classe composée uniquement d'élèves les plus doués. Il reçoit finalement la médaille d'or de son maître Safonov, qui dit, la chose étrange, qu'il faudrait pour Medner vraiment une médaille de diamant. Alors il gagne à 21 ans le Grand Prix Rubinstein à Vienne. Âgé de moins de 20 ans, Medner avait déjà publié les 4 premiers opus de son œuvre, après en avoir détruit un grand nombre d'autres qu'il n'aimait pas. À 24 ans, il joue sa première sonate, l'opus 5, à Saint-Pétersbourg, devant le jury de la maison d'édition Belaïev. Elle est immédiatement acceptée à l'unanimité puis publiée. Qui sont les membres de ce jury? Il y avait César Cui, Rimsky-Korsakov, Glatsounov, puis Balakirev, et qui deviennent de grands admirateurs de sa musique. La musique de Medner possède un caractère profondément religieux. Elle sera ainsi du début de son œuvre jusqu'à la fin. Mais que ce soit dans la sonate ballade, ou le 3e concerto, ou le quintet, il a tellement écrit, s'il s'inspire d'un texte évangélique ou d'un psaume, jamais, jamais il ne prêche. Il ne fait encore moins de la métaphysique. Jusqu'à l'âge de 29 ans, sa vie est entièrement consacrée à la composition. Il enseigne à quelques élèves. Une fois par année, il donne une série de récitals où il joue ses œuvres nouvelles. Il est entendu comme ça à Moscou, à Pétersbourg, à Kiev, à Odessa, à Dresde, à Leipzig, à Varsovie, à Berlin, où il est acclamé comme l'un des plus grands pianistes de sa génération puis l'un des meilleurs interprètes de Beethoven. Il devient, à Moscou, l'idole de la jeunesse musicale. En 1909, toujours à 29 ans, il devient professeur au conservatoire de Moscou, mais malheureusement, il n'a pas le temps. Il doit démissionner après une année. Pendant la guerre et la fameuse révolution communiste, là, 1914 à 1921, il va être de nouveau professeur au conservatoire, mais toute sa vie, il n'enseignait qu'à un nombre bien restreint d'élèves. Hein. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il s'en occupait tellement qu'il les portait, ses élèves, sur son dos. En 1916, là, en pleine guerre, Medner se marie. Il connaissait depuis 20 ans celle qui devait devenir sa femme. Il avait 16 ans lorsqu'il avait rencontré Anna, âgée de 2 années de plus que lui. Elle a été pour lui la compagne idéale, une véritable amie. Il disait lui-même, « Elle est ma femme, ma mère, ma sœur, tout. » C'est elle qui copia toute sa musique, de la première à la dernière œuvre. S'est occupé de toutes les affaires, de la business, comme elle disait. Et jamais il n'a donné un ristal sans que sa femme soit là. Hein. Il ne pouvait absolument pas jouer si sa petite Anna, comme il l'appelait, n'était pas avec lui. Et toujours, Metner, malgré ses immenses difficultés et misères de la Révolution, il compose. Il écrit sans interruption. Pendant les jours les plus sombres, les plus misérables, faut pas oublier, c'était difficile, la ration de pain était de 2 onces par jour, de quelques patates, de poissons qu'il était presque toujours pourri. On mangeait, j'ai rien de dire, mais les chats, les chiens, les oiseaux que l'on pouvait attraper. On échangeait avec les paysans des bijoux, des diamants même, pour du sucre et de la farine. Et vivant alors dans la banlieue de Moscou, il travaille surtout pendant le jour. Parce que la nuit, il n'y a, pour s'éclairer, qu'une petite bougie que sa femme doit tenir près de lui et le suivre du piano à sa table de travail. Et dans cette atmosphère, bien, il écrit les œuvres les plus sereines, les plus souriantes, telles que la canzona mattinata, chant du matin, les danses, puis tout le fameux cycle des œuvres appelées mélodies oubliées. Nicolas Metner écrivait un jour, « Durant ma vie, j'ai toujours servi l'art. » Mais c'est pas l'art pour l'art, écoutez bien. J'ai toujours cru que l'art est, comme la nature, l'œuvre du créateur. Dans son volume, « La muse et la mode », il écrit qu'un thème est au-dessus de toute intuition. Il n'est jamais inventé, mais à qui ? Il s'explique. « L'intuition d'un thème, dit-il, constitue un ordre, et plus cette intuition est grande, plus l'œuvre est inspirée. Le thème est quelque chose d'ineffable et peut être défini et expliqué seulement par lui-même. Et ce thème, cette intuition, c'est l'inspiration qui naît par elle-même subitement dans l'âme du compositeur. » On voit qu'il veut dire que c'est Dieu qui la dépose là. Hein. « Le thème ne peut jamais être inventé. Il est la partie la plus accessible de l'œuvre. Il l'unifie et renferme en lui la clé de toute complexité et variété de l'œuvre. » Quand on écoute une œuvre classique, il y a un thème qui nous est donné au début, quelques notes, 3, 4, 5, 6 notes. Là. Puis ça se répète, puis ça se développe, et c'est tellement beau. Hein. J'ai dit ça pour les plus jeunes. On vous a peut-être jamais expliqué ça. Et c'est là que c'est beau. Ah, écoutez, on voit le thème se développer. Il ajoute, lui, et des compositeurs actuels, là, il ajoute, au lieu d'un thème qui doit se développer par lui-même, ils écrivent un thème qui se développe selon leur propre volonté. Hein? C'est plus la même chose pour lui. Je vous ai glissé un mot tout à l'heure des mélodies oubliées qu'il a composées alors qu'ils avaient presque rien à manger, là. Et Metner a baptisé, donc le cycle des opus 38, 39, 40, les mélodies oubliées. Pourquoi? C'est que l'origine de ces œuvres peut être apparentée au poème de Lermontov, L'Ange. C'est un curieux poème qui raconte l'histoire d'un ange. Je vous raconte ça parce que c'est une belle histoire. L'histoire d'un ange qui porte dans ses bras vers la terre l'âme d'un nouvel enfant. Et pendant ce voyage merveilleux, cette jeune âme entend les mélodies célestes, les chants extraordinaires, les chants divins. Et plus tard, elle est enfermée dans une créature humaine, dans un petit bébé. Elle se souvient avec mélancolie et nostalgie de ces mélodies du ciel. Ce sont les mélodies oubliées, voilà. Chaque être humain a dans son cœur et dans son âme une soif d'infini. Et il sent qu'en dehors de lui, une autre vie beaucoup plus belle existe. N'oubliez jamais ça. En dehors de nous, il y a une autre vie beaucoup plus belle qui existe. Sortons de nous-mêmes, de nos platitudes, pour aller vers tout ça. Souvent, lorsque nous entendons une mélodie très belle pour la première fois, nous avons l'impression d'avoir déjà entendu cette mélodie et même de la connaître. Elle dormait donc en nous. Et il faut un être privilégié qui possède un pouvoir presque divin pour mettre ces mélodies dans une forme concrète que nous pouvons saisir. Et le génie, qui possède de puissantes antennes, capte ces mélodies innombrables pour les donner aux humains. C'est le compositeur, le bon. Il est vrai de dire que la musique en soi a toujours existé. Elle était avec le verbe qui était au commencement, dit Metner. Alors malgré les misères de la révolution russe, Nikolaï Metner donne toujours des récitals de ses œuvres. Les assistants sont nombreux. Les gens sont extrêmement enthousiastes, malgré le froid terrible dans les salles. Hein. Imaginez que, même pendant les froids de l'hiver, le chauffage n'existe pas. Alors, Metner entre sur l'estrade avec un paletot et des gants qu'il quitte quelques secondes avant de jouer. Et un jour, sous l'estrade, il y a un ami qui essaie avec quelques branches de faire du feu afin de réchauffer ses pieds. Et puis, dans la chambre d'artiste, là, on lui apporte un morceau de beurre d'un pouce carré, ce qui était un grand luxe, un pouce carré. C'est tout. Quelques morceaux de sucre, un morceau de viande. C'était pas facile, et en 1921, bien, sa femme et lui, bien, ils doivent quitter la Russie, à grand-peine. Ça chagrine tous les parents, tous les amis, hein. C'est le nouveau régime qui lui est absolument intolérable. Il ne peut plus vivre dans cette atmosphère. Il veut que sa musique vive et respire librement. Parce qu'il ne peut pas écrire sous commande, et encore moins pour un régime. Le régime communiste, dans le cas, hein, comme vous savez. Et un commissaire du gouvernement va venir lui offrir une maison spacieuse, des serviteurs, de l'argent, tout ce qu'il désire, mais il va refuser. Toujours, carrément. Comment pourrait-il vivre dans le confort, dans le luxe, puis voir ses amis souffrir et mourir de faim? Les bolcheviks ont essayé, mais en vain, de faire de Nikolaï Metner un ami. On raconte qu'au moment de la Révolution, son frère Charles Metner, officier dans l'armée tsariste, a été emprisonné et qu'il devait être condamné à mort. Metner, très anxieux, se rend au commissariat et se fait connaître. Une femme commissaire part aussitôt et se rend dans la cour de la prison et crie « Charles Metner !» Et ce dernier, croyant sa dernière heure venue, se prépare à mourir et s'approche. Et puis, elle lui demande « Vous êtes le frère du compositeur Metner ? Alors prenez vos bagages et sortez, vous êtes libre. » Un jour, son père tombe dangereusement malade, alors on le transporte dans un hôpital réservé aux hauts fonctionnaires du Kremlin. Imaginez. Mais tout cela n'était qu'une façade pour cacher une hypocrisie dégoûtante et ignoble. Selon Metner, selon Nikolaï Metner, il donne une série de récitals dans la salle du conservatoire, des récitals d'adieu. Il joue tout le cycle des mélodies oubliées. Le public ne veut pas quitter la salle, tellement l'enthousiasme est grand. Et on lui crie de partout, « Ne partez pas, restez avec nous !» Mais il préfère s'exiler, afin d'avoir la liberté, pour lui et pour sa musique. Mais le sacrifice est tellement grand, c'est extrêmement pénible. Car tous deux, ils aiment passionnément leur pays, la Russie. Et Moscou est toute leur vie depuis plus de 40 ans. La vie à la campagne, les réunions d'amis, toute la société musicale, tout ça, puis les voyages en Crimée, sur les bords de la mer Noire, en Suède, ces voyages qu'ils adoraient et qu'ils avaient fait souvent pendant les saisons d'été, tout semble maintenant fini. Grâce à un passeport estonien, le père de Metner, faut dire, possédait une propriété en Estonie. Et ainsi, ils ont pu obtenir un passeport, mais ils peuvent quitter Moscou et la Russie. Alors, le couple Metner, avec une trentaine d'immigrants, retenus pendant 15 jours à la frontière estonienne, puis obligés de coucher, puis de vivre et de demeurer pendant tout ce temps dans une salle commune, la saleté est infecte. Pendant que l'un dort, l'autre doit surveiller les punaises, puis la senteur est intolérable. Finalement, ils quittent cet enfer et arrivent à Berlin. Ils ont emporté de Moscou un peu d'argenterie pris à la hâte, quelques volumes, dont surtout les Évangiles, Platon, Pouchkine en particulier, puis ses manuscrits, évidemment. Comme linge, ils n'ont que ce qu'ils portent sur eux. Metner entre même dans un magasin de chaussures, puis achète une paire neuve, puis laisse là ses vieux souliers. Alors, monsieur et madame Metner s'installent par la suite dans la banlieue de Berlin. On est malgré tout optimiste. La seconde partie de leur vie commence. Les Metner passent seulement une année et demie à Berlin. Il donne plusieurs récitals, particulièrement à Berlin et à Varsovie, où il joue son premier concerto, puis le quatrième concerto de Beethoven, avec le chef d'orchestre Abendroth. À Berlin, il est demandé à plusieurs reprises pour être professeur à l'Académie supérieure, à la Hochschule, mais il refuse toujours. Il ne peut se concilier avec la poussée du modernisme qui surgit partout. C'est pas un moderniste, il est traditionnaliste. Il n'aime pas Richard Strauss puis quelques autres qui sont à la mode. Un jour, on raconte qu'ayant entendu la musique écrite par le directeur de l'Académie supérieure, il est tellement terrifié qu'il traverse la rue puis se sauve lorsqu'il le voit venir de loin parce qu'ils demeuraient pas très loin l'un de l'autre. Ils avaient coutume de se rencontrer souvent. Au début de l'été 1923, il quitte l'Allemagne pour la France. Il passe la saison d'été sur le bord de la mer en Bretagne. Ils vont en Italie, puis particulièrement en Florence. Il devait l'intention d'y passer seulement quelques jours en Italie, mais rendu là, ils ont loué un appartement à Florence, un piano. Puis, ils ont resté là un mois. Ils passaient des journées entières à visiter les musées. C'est de si beaux musées, hein, Florence, les expositions de peinture. Et souvent, c'était le gardien qui les forçait de quitter la place parce que l'heure de la fermeture était arrivée. Et Madame Metner dit, j'étais parfois morte de fatigue et lui, il ne se lassait jamais. Il aimait spécialement les peintres du Quattrocento, hein, Filippino, Lippi, Bellini. Et chaque soir, il terminait la journée en passant par le couvent de San Marco, couvent dominicain, et contemplait les sublimes fresques de Fra Beata Angelico, dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait une émission sur Fra Angelico. Il l'adorait. Je continue les réflexions de sa femme. Les Metner passent plusieurs jours avec leurs amis Rachmaninov, qu'ils n'avaient pas revu depuis plusieurs années. Et c'est Rachmaninov qui avait écrit à Metner à Berlin, « Écoutez bien ça, c'est Rachmaninov, vous me donnez beaucoup de joie par vos œuvres nouvelles et je répète, ce que je vous ai déjà dit en Russie, je vous considère comme le plus grand compositeur de notre temps. » C'est pas rien, hein? En 1924-25, il y est invité pour une tournée de concerts aux États-Unis. C'est une tournée organisée par Steinway. Pendant 9 mois, il joue dans les principaux centres, puis il donne de nombreux récitals de ses œuvres. Il joue son premier concerto avec les plus grands chefs d'orchestre, hein, Fritz Reiner, Stokowski, Frédéric Stock, Gabrilovitch, etc. Son succès est énorme, et à Chicago, par exemple, on écrit que l'assistance était complètement électrisée, criait, vociférait, et le rappelait à maintes reprises. À New Haven, on écrit, depuis que l'orchestre symphonique existe depuis 36 ans, il a rarement eu l'assistance d'un homme dont le prestige égale celui de Metner. Mais c'est avec grande joie qu'il voit cette tournée s'achever, et il peut revenir chez lui. Il ne pouvait donner de longues tournées de concert, car partout et toujours le feu de la composition le dévorait et le consumait. C'est d'abord un compositeur. Selon sa demande, on a brûlé après sa mort un nombre innombrable de carnets sur lesquels il écrivait tous les thèmes qui naissaient en lui et sur lesquels il faisait souvent des esquisses. Il avait toujours en poche l'un de ses carnets, puis prenait continuellement des notes pendant toutes ses tournées de concert et souvent même pendant l'intermission au milieu des récitals. Il a refusé à maintes reprises des tournées de 50 ou 60 concerts, et c'est Rachmaninov qui lui en faisait souvent des reproches. « C'est pas ainsi que l'on fait la carrière, lui disait-il. Il faut retourner, rejouer, surtout lorsque le succès est grand comme le vôtre. » Il est revenu en France et s'installe près de Paris, dans la vallée de la Chevreuse, c'est si beau. Et pendant plus de 2 années, il ne s'occupera que de composition, parce qu'il a de nombreuses œuvres à travailler et à terminer. En novembre 1926, ou plutôt, il faut dire que celui de qui on écrivait au début du siècle, la position de Metner parmi les compositeurs modernes est très haute et les historiens contemporains le considèrent comme l'un des chefs. Mais ce Metner, il a vécu, et particulièrement en France, au milieu d'un ostracisme absolument révoltant. C'est très étrange. Il faut dire qu'il y avait un grand courant de musique dite moderne à cette époque et lui était plutôt néo-romantique. Alors il a vécu isolé du public, mais il avait toujours autour de lui un groupe d'amis intimes. Il y avait Gladunov, il y avait surtout Marcel Dupré qui l'appréciait beaucoup, Abel Décaux, Et il y avait des admirateurs fervents qui avaient pour sa musique un culte véritable. Et à Paris, après son premier récital, quatre journalistes sont venus le voir à sa maison. C'est assez tragique, cette histoire. Et le lendemain, il lui propose de la publicité, à condition, bien entendu, qu'il paie une somme assez rondelette. Telle somme pour les grandes, telle pour les moyennes, puis telle pour les petites annonces. Il trouve ces propositions très drôles et il leur dit en se moquant, « Mais êtes-vous sérieux lorsque vous me proposez cela? Jamais je n'ai vu pareille chose en Russie. Et là, non, on n'achète pas la renommée. » Alors ils sont sortis surpris et irrités, les journalistes. Nikolaï Metner porte sa part de responsabilité dans le fait qu'il n'est pas plus connu du public. Car dans un monde comme le nôtre, il n'était pas homme à soulever toutes sortes d'intrigues, puis à les quémander, puis à acheter à prix d'argent pour que l'on aime ses œuvres. Hein. En novembre 1926, des amis peuvent organiser une tournée de récital en Russie. Alors, il va à Moscou, Pétersbourg, Kiev, Odessa, Riga, etc. Et puis, monsieur et madame Metner sont tous deux infiniment heureux, non seulement de revoir leur patrie, qu'ils aiment tellement la Russie, mais aussi tous leurs parents puis tous leurs amis. Alors, ils jouent plusieurs fois dans chaque ville. Et le succès de Nikolaï Metner est toujours très grand. Et particulièrement à Odessa et à Moscou, il est reçu, puis fêté comme un roi. Un jour à Moscou, on l'invite au conservatoire pour entendre une conférence, et sous la pression de ses amis, il accepte. Ils sont assis, lui et sa femme, dans les premières rangées d'honneur. Et ce qu'ils appréhendaient et craignaient se produit. On est en plein régime communiste, n'oubliez pas, 1926. Le conférencier, avec insistance, parle du développement et du progrès que l'on doit au nouveau régime. « De nouvelles portes, dit-il, sont maintenant ouvertes dans tous les domaines et surtout dans les arts, dans la musique, grâce à l'aide et à la compréhension du régime, etc., etc. » Tous écoutent, pathétiquement, mais Metner, n'en pouvant plus, et étouffant de colère depuis plusieurs minutes, se lève soudainement et, malgré le scandale, sort de la salle, suivi de sa femme, puis invité à maintes reprises pour rencontrer et pour jouer devant les hautes tête bolchevique, il refuse toujours. Il prétexte qu'il est malade ou donne d'autres raisons. En 1928, il est invité à Londres et dans les grandes villes anglaises pour des concerts et des récitals. Il joue son second concerto avec Sir Hamilton Harty, avec Sir Henry Wood, puis il donne de nombreux récitals de ses œuvres. La société musicale lui fait fête. Il est nommé membre honoraire de la Royal Academy of Music. Il est fêté par la Société Philharmonique. Puis un grand banquet est donné en son honneur. L'année suivante, en 1929, avant de s'embarquer pour une seconde tournée de concert au Canada puis aux États-Unis, il est invité pour un concert à Berlin avec le fameux Ludwig Wüllner et Madame Else Wachsmann qui interprète ses mélodies. Le fameux professeur allemand Georges Armin écrivait dans l'un de ses nombreux articles sur Nikolaï Metner et publié à Berlin, « Les œuvres de Metner sont classiques et donc aussi instructives dans leur forme concise et dans leur noble caractère, et dans ce sens nous rappellent Bach et Beethoven. » Étudiez cela. Il répète une troisième fois, « Étudiez cela. » Voilà ce que l'on devrait écrire partout sur cette musique. Le terme « accompagnement » n'existe plus pour la partie pianistique. La nature gronde, roule comme sous le souffle du Tout-Puissant. Et l'homme, dans ce grondement et dans ce roulement, chante ses joies et ses peines, et dans cet accompagnement de Metner. Il y a quelque chose de diabolique en lui. Il y a seulement un mot pour le jeu de Metner, « maîtrise ». Durant cette tournée au Canada, il a joué dans les principales villes du Québec et de l'Ontario. Au Québec, il a joué à Montréal, à Québec même, à Trois-Rivières et à Sherbrooke. En Ontario, il est allé à Toronto. Vous savez que beaucoup de Québécois l'admiraient beaucoup, comme l'abbé Turcotte, qui était un musicien respecté, et qui était l'un des premiers Canadiens français à faire des études musicales en France, Dominique Laberge aussi, ce fameux musicologue, Jean Valran, etc. En revenant du Canada pour la France, il donne plusieurs récitals en Angleterre. Et de retour en France, ils vivent à Montmorency, puis à Bellevue. J'ai un texte de Marcel Dubré. Marcel Dubré, ce grand organiste, là, qui lui écrivait après un récital que c'était beau hier soir. C'est avec la plus grande émotion que j'ai écouté et suivi note à note la tragique et la romantique, ainsi que tout le reste. Et je suis sorti de là bouleversé. Chez vous, le compositeur, le penseur, l'artiste, le virtuose, ne font qu'une unité, et cette unité est très grande. Admettez-le une fois pour toutes. Nicolai Metner est inébranlable, et tel un rocher. Il est inébranlable dans ses convictions artistiques. Il était d'un autre côté extrêmement modeste et d'une sensibilité infinie. Il était modeste car il sentait qu'il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. La musique qu'il écrivait ne venait pas de lui. Il n'était qu'un serviteur. Un artiste, écrivait-il, doit servir l'art et non être servi par lui. À la fin de sa vie, il n'eut aucun reproche à se faire et aucun remords, car il avait le sentiment du devoir accompli. Mais pour cela, il a eu à souffrir, à lutter toute sa vie. De ses principes sur l'art, il disait « Je ne pouvais changer, car cela était comme ma croyance et ma foi. » Et pour Metner, l'art, après Dieu, était ce qu'il y avait de plus précieux sur terre. On a beaucoup écrit sur l'inspiration. Chez lui, c'était quelque chose d'inexprimable. L'inspiration le frappait comme un éclair, subitement, puis d'une façon inattendue. Soit à la vue d'un paysage, à la lecture d'un poème, ou simplement, et le plus souvent sans être provoqué par un objet extérieur. Il écrit « J'ai eu toute ma vie », c'est plutôt sa femme qui dit « J'ai eu toute ma vie l'impression que quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux, de miraculeux se passait chez lui. » Jamais il n'a décidé d'écrire telle ou telle œuvre, mais au contraire, c'était l'œuvre qui s'imposait à lui. Hein? Il n'a jamais décidé d'écrire soit une sonate, un concerto ou un groupe de mélodies. L'inspiration venait, naissait du plus profond de son âme, un besoin impérieux, une force mystérieuse le poussait à écrire ce qui germait en lui. Sa femme racontait d'ailleurs qu'un jour, il s'était étendu sur une chaise longue, puis il avait pris avec lui un volume des poésies de Tutchef. Quelque temps après, j'allais le voir. Mais au lieu de le trouver reposé, il était complètement épuisé. Puis il me demandait de lui apporter une feuille de papier à musique et un crayon afin d'écrire le thème d'une mélodie. En 1932, il est invité à nouveau en Angleterre et là, il possède un public vraiment spécial et choisi. Il est apprécié et aimé par de nombreux musiciens et des plus connus, puis il est invité à maintes reprises à la BBC. Après chaque récital, il y a un représentant d'une maison d'édition qui va le voir afin de publier ses œuvres nouvelles. On ne lui demande pas, comme en France, de jouer des auteurs connus et à la mode, car l'on a assez d'équilibre, dit Bernard Pinsenot, et de goût, pour reconnaître, apprécier et aimer un tel compositeur. Les Metner décident donc de quitter Paris pour Londres. Même leurs amis français, voyant l'accueil qu'ils reçoivent toujours en Angleterre, finissent par approuver pleinement leur projet. Alors, c'est un troisième pays d'exil. Il était très difficile d'obtenir la permission de demeurer en Angleterre, et l'on ne donnait que des visas temporaires. Mais l'évêque de York, le docteur Temple, que Metner avait rencontré pendant la première tournée, lui avait dit « Pour vous, tout sera facile. Et d'avoir choisi notre pays pour votre demeure, c'est un grand honneur pour l'Angleterre. » Il laisse donc la grande partie de leur ameublement, puis à la fin de l'année 1935, il quitte Bellevue. Et pour la troisième fois, comme je vous dis, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux, puis s'installe donc dans l'une des plus belles parties de Londres, Golders Green, tout près de Hampstead. C'est un endroit paisible, éloigné des grandes artères. Ils ont vécu d'ailleurs à Berlin, à Paris, toujours dans des banlieues, pour avoir la tranquillité, toujours avec un grand jardin, des arbres et des fleurs. Et malgré toutes les difficultés, bien, il était, maintenant, toute sa vie, un optimiste. Lorsque le cœur n'a pas de rides, la jeunesse et l'enthousiasme demeurent toujours. Hein? Il possédait des yeux bleus, mais en même temps un regard extrêmement pénétrant, une figure calme. et rempli de sérénité. Il adorait les enfants, puis il aimait les taquineries, les tours, les bonnes histoires, les anecdotes. Lorsqu'il est arrivé à Londres pour y demeurer à l'âge de 55 ans, il ne parlait pas du tout la langue anglaise. Il a commencé donc à lire, puis après quelques années, il pouvait lire et converser couramment. Il possédait une vaste culture. Il connaissait en plus de la littérature russe, bien entendu, la littérature allemande, Goethe, Schiller, Camusso, puis la littérature française, Racine, Corneille, Molière, Balzac, Anatole France, Alphonse Daudet, puis La Fontaine, c'était ses préférés. Mais la littérature anglaise, comme Chesterton, dont je vais vous parler bientôt, Tennyson, et surtout Shakespeare, qu'il aimait par-dessus tout. En 1936, il joue au Promenade Concerts son second concerto. Marcel Dupré lui écrit de Paris, « Nous étions aux écoutes hier soir et avons merveilleusement entendu, sans en perdre une note, la magnifique exécution d'hier. » Mais nous est venu, après le premier mouvement, entre le dernier accord et la salve d'applaudissements, le « Ah !» d'admiration des cœurs suspendus à vos doigts. Quelle œuvre noble, grande et mouvante! Quelle impeccable forme! Quelle émotion nous étreint du commencement à la fin! Quelle magnifique orchestration! Qui ne couvre ni ne gêne jamais le piano, mais l'enveloppe d'une atmosphère merveilleuse. Alors il est invité pour être professeur à la Royal Academy of Music, mais ne parlant pas suffisamment l'anglais et ne pouvant se résigner à enseigner avec l'aide d'un interprète, il refuse. La même chose se produit lorsqu'il a fait ses deux tournées en Amérique d'ailleurs, aux États-Unis. Il enseigne à quelques élèves qui comprennent soit le russe, l'allemand et le français. En 1939, une nouvelle tournée est organisée aux États-Unis. Les programmes sont faits, annoncés, et il doit donner dans les principales villes un festival de ses œuvres, mais malheureusement la guerre se déclare, ça empêche la réalisation de ce projet. Pendant les bombardements à Londres, un endroit dans la maison, une petite chambre plus élaborée, leur avait été fortement conseillé par les autorités du district, et lorsque la sirène sonnait, ben ils s'y retiraient. Et quelle était leur attitude face à la mort? C'est Mme Metner qui a fait cette déclaration admirable. « Pendant les bombardements, nous nous tenions toujours l'un près de l'autre. Si une bombe était tombée, nous aurions été tués tous les deux. Ils étaient prêts à mourir ensemble. » Survient dans la vie de Nicolas Metner quelque chose d'absolument fantastique à un moment donné. Je pense bien que c'est unique dans l'histoire des compositeurs. En 1946, survient en effet un événement tout à fait sensationnel. Un maharaja hindou de Mysore, vous savez que ces hommes sont extrêmement riches, mais il écoutait un jour des œuvres enregistrées plusieurs années auparavant par Metner. Et ce maharaja était stupéfié d'entendre une telle musique, puis aussi un tel pianiste. C'était ce maharaja un bon musicien. Il s'est procuré toute la musique qu'il a pu trouver sur disque. J'ai aperçu que Nicolas et Metner étaient un génie qui méritait d'être connu universellement, disait-il. Il apprend, après des informations, que Nicolas et Metner vit encore et se trouve même en Angleterre. Alors, par son représentant à Londres, son espèce de consul ou d'ambassadeur, si on veut, il lui demande s'il accepterait d'enregistrer toutes ses œuvres. Il s'engage à défrayer le coût de toutes les dépenses. Metner, quoique malade pendant ce temps, accepte. Alors, une société Metner, de Mysore, est fondée. Puis l'un des directeurs de His Master's Voice, là, RCA, est désigné pour réaliser les projets du maharaja. Et malgré un cœur malade, Nicolas Metner enregistre lui-même ses trois concertos, plusieurs œuvres pour piano solo, pour piano et violon, plusieurs mélodies, puis son quintette. Il dédie son concerto ballade au maharaja en signe de profonde gratitude. Et cet événement est unique dans toute l'histoire de la musique et le monde musical sera toujours le plus en plus reconnaissant envers ce maharaja hindou. Par grâce à sa compréhension absolument exceptionnelle, il est possible d'approcher puis d'entendre puis de comprendre plus intimement une grande partie de l'œuvre de Medtner interprétée par lui-même. En 1948, il est de nouveau terrassé par une grave attaque cardiaque. Mais c'est la deuxième, soyez, on croit que la fin est proche. Et dans son délire, il répète qu'il doit se lever, enregistrer son quintet. Puis il demande de chasser ceux qui veulent l'en empêcher. Ah, le délire, hein? Et heureusement, il peut l'enregistrer en novembre 49 l'année suivante, puis en novembre 50, il enregistre les derniers disques, un groupe de 14 mélodies avec la chanteuse Elisabeth Schwarzkopf, ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Il reçoit plusieurs fois, par télégramme, la demande du Maharaja de Mysore, qui le prie d'enregistrer les sonates romantiques et orageuses qui forment l'opus 53. Il travaille cette dernière, mais un jour, le 31 octobre 1951, il avoue à sa femme, « Tu sais, ma chérie, les doigts peuvent jouer, mais le cœur ne peut plus. C'est comme si j'avais une montagne à soulever. » Et tous ces enregistrements, toutes ces répétitions lui ont demandé un effort inouï. Hein. Dès 1943, il avait été condamné par les médecins à ne plus travailler et à ne rien faire. « C'était impossible, disait-il en riant, que je vive comme un légume. » Ce fut pendant ces dernières années une lutte continuelle contre la faiblesse et la mort afin de terminer son œuvre. Puis là, l'automne 1951, 2 mois et demi avant sa mort, sa santé paraissait meilleure, ses forces semblaient lui revenir. Travaillait longtemps, classe ses manuscrits, brûle des papiers en quantité énorme, des paquets d'esquisses et d'œuvres inachevées. « Comme tu as écrit et composé, » disait-il à sa femme qui portait au feu toute cette musique. Il délirait un peu. Pendant une dernière promenade, le 28 octobre, assis sur un banc dans un de ces beaux parcs de Hampstead, il disait, « Je crois que cette solitude dans laquelle je suis plongé est nécessaire pour me préparer à entrer dans l'autre monde. On doit, avant de mourir, disait-il, avoir le temps de penser à la mort. On doit l'accepter et même la désirer. » Le 31 octobre, il se met au piano pour la dernière fois, travaille environ 1 heure la sonate orageuse, mais le cœur ne peut plus. Le lendemain, il se sent d'une faiblesse extrême, passe la journée assis sur son divan. C'est très curieux, disait-il en feuilletant un journal, même en se sentant tout près de la fin, tout près de la mort, on s'intéresse à tout ce qui se passe. Il disait souvent que depuis plusieurs années, son cœur était comme un petit morceau de guenille et qu'il vivait continuellement sur le bord d'un précipice. La chair, c'est ce qu'il disait, devient comme un morceau d'habit usé. Les évangiles étaient les seules choses qu'il pouvait maintenant lire. Ah là, réside, disait-il, la plus grande et l'éternelle sagesse. Il aimait lire aussi les pères de l'Église et en particulier Saint Jean Chrysostome. Pendant les derniers jours, malgré de grandes souffrances, il demeure serein, il sourit toujours. Par son humour, il fait même rire ceux qui l'entourent. Et un soir, pour se distraire, il joue aux cartes. Le 4 novembre, donc pas longtemps avant sa mort, après une visite de leur prêtre, parce qu'il est catholique de rite russe orthodoxe, ces gens-là sont des gens qui souffrent beaucoup dans un sens, parce qu'ils sont les précurseurs d'une unité à venir. Et ils la souhaitent tellement qu'ils la font, sans quitter leur tradition et ce qu'ils aiment dans la sainte orthodoxie. Mais ils sont unis à la grande église catholique. Alors, le 4 novembre, après une visite de leur prêtre, il reçoit la confession, la communion. Puis, se sentant un peu plus fort, il désire absolument se lever. Et soutenu, il fait très lentement le tour de son salon. Il s'assoit au piano pour quelques minutes, mais il se contente de le regarder. Puis, très épuisé par ce dernier effort, il retourne dans sa chambre. Au milieu de ses douleurs, il remercie Dieu. Il fait des signes de croix. Il dit, « Je suis devenu très compliqué. C'est impossible. Le monde est si simple. Lorsque je dors, je suis sauvé. » Depuis quelques jours, il ne mange pratiquement pas et sa voix est devenue extrêmement faible. Il parle tantôt russe, tantôt français. Il passe les 2 dernières journées à dormir sous l'effet des piqûres de morphine et d'atropine. Mais le 13 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, à 4h50 du matin, il s'éveille subitement. Il regarde ceux qui étaient près de lui. Il s'endort pour toujours dans le Seigneur. Il est demeuré exposé sur son lit pendant une journée. et seulement quelques amis proches sont venus pour lui rendre visite. Le soir, il a été déposé dans un cercueil, transporté à l'église, où, selon la coutume russe, il est demeuré exposé, cercueil fermé, jusqu'au service solennel, vendredi le 13 novembre. Pendant ce service, un quatuor a chanté les psaumes qu'il aimait le plus, des chants d'une infinie beauté, mais d'une grande tristesse, d'une mélancolie, d'une nostalgie déchirante. Sa tombe se trouve dans le cimetière de Hendon, et sur le monument, entouré d'arbres et de fleurs, on a gravé ces paroles qui illustrent parfaitement ce qu'il a été toute sa vie. C'est écrit « Sans moi », avec un M majuscule, « Vous ne pouvez rien faire ». C'est l'extrait de Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 5. Bernard Pinsenneau, qui a écrit ce que je vous ai lu, termine en disant « Charles Dubos écrivait dans un dernier journal, « Derrière le mystère du génie, et pour parvenir à en rendre compte, il n'y a rien de moins que le mystère même de Dieu. » Il n'y a rien de moins que le mystère de Dieu. C'était hier la fête de Saint Josaphat, quelqu'un qui a eu grandement souffrir justement de s'être uni à l'Église catholique tout en étant de rite oriental et qui a été assassiné. Nous pouvons le prier et nous pouvons aussi demander que l'union des Églises se fasse dans la paix, l'amour, la tendresse et que respectueux les uns des autres, orthodoxes et catholiques, nous sachions nous aimer profondément, comme autrefois avant le XIe siècle. Soyez unis, dit Jésus, soyez unis. Alors qu'il faut donc prier pour ça.